Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Il y a environ 3,8 milliards d'années, apparaissait la vie sur Terre sous la forme d'une cellule. Une cellule sont devenues des cellules. Elles se sont multipliées, puis organisées en organismes multicellulaires pour aujourd'hui donner une biodiversité de plus de 2 millions d'espèces vivantes connues. Bien que toutes ces espèces, dont nous faisons partie, partagent des fonctions primaires, se nourrir, se reproduire, interagir, survivre, quoi, certaines ont développé et conservé des caractéristiques physiques et des comportements pour le moins surprenants. Bienvenue dans le bestiaire du Labo des Savoirs. J'espère que vous êtes bien installés chez vous, que vous soyez sous un plaid eau chaud ou dans votre voiture dans les bouchons. Dans cette nouvelle émission magazine, on vous emmène à la découverte des animaux bizarres, étranges, curieux, étonnants, chelous. Enfin, ce qui nous semble, car peut-être qu'à la fin de l'émission, cela ne vous paraîtra pas si hors norme que cela. Une thématique qui a inspiré beaucoup de nos bénévoles, car je ne suis clairement pas seule autour de cette table ce soir. J'ai avec moi une équipe de choc, en commençant par ma gauche avec Lila. Bonjour Lila.
Hello.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler du narval.
Ok. Ensuite, nous avons Jérémy. Bon, salut Jérémy.
Hello, hello.
Et ton sujet, ah oui, toi ?
On va parler de chèvres.
Ok, on va dire ça. On va parler de chèvres. Floriane, salut Floriane.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très très bien,
et
très content d'être là
de...
ce soir. Moi je vais vous parler de reproduction animale.
Mmh. Nolwenn, salut Nolwenn.
Salut.
Et quel est ton sujet de ce soir ?
Moi je vais vous parler de trois animaux qui m'ont un peu interpellée. Okay. Un cerf, une antilope et un gros piaf.
Un gros piaf, ok.
Très gros
On va
piaf.
Parler du gros piaf. Et nous avons également Dounia la réalisation. Salut Dounia.
Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font ? Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science, de toutes les sciences ? Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous.
Alors, comment ça va les amis ce soir ? Franchement, je suis trop contente d'être avec vous. Ça va ?
Ça va.
Tout le monde est bien, on est tranquille.
Ça va très très bien, très heureuse d'être autour de cette table.
Trop bien. J'ai vraiment hâte moi d'entendre toutes vos histoires de bébêtes. Et je crois que le plus dur dans la préparation de cette émission, c'était quand même de choisir de quel animal vous alliez parler, c'est ça ?
Oh, oui.
Oui.
Ouais. Oui, c'est clair. Très ardu.
Et donc de quoi ? On aura peut-être de quoi faire une deuxième émission. Mais bon, on va déjà essayer de faire celle-là. Et donc, comme vous aviez des tonnes d'idées, je me suis dit, ce sont des experts en animaux bizarroïdes. On va donc voir à quel point. Je vous ai préparé des petites questions par-ci, par-là, pour tester vos connaissances. Il y en aura tout au long de l'émission. Et donc, tenez-vous prêts, voici la première question. Si je vous dis Trichobatrachus robustus, c'est une grenouille, mais quelle est sa particularité ? Réponse A, elle est la seule représentante de son genre Trichobatrachus. Réponse B, c'est une grenouille poilue. Réponse C, elle a des os rétractiles qui lui servent de griffes. Réponse D, la réponse A, B, C et donc D.
Je sens le piège, c'est pas un truc
ouais, moi
vraiment
aussi.
Absolument tout.
Moi je pense que c'est la réponse D.
Je pense aussi à la réponse D.
Moi, j'aime bien les os mobiles façon Wolverine.
Ouais, les poils m'intriguent.
Les poils t'intriguent. Ouais. Eh bien, effectivement, c'est la réponse D. Mmh. Car effectivement, donc, ces poils, ce sont des excroissances, de sa peau qui lui permettent d'augmenter la surface d'échange avec les capillaires sanguins pour absorber plus d'oxygène. et les griffes, façon Wolverine. Donc ce sont des os rétractiles, faits purement d'os. Il n'y a aucune couche de kératine dessus, comme la majorité des animaux terrestres, en fait, comme les félins avec leurs griffes. En fait, ce sont vraiment des petits os qui percent la peau fine de la grenouille pour les aider à se défendre. Et donc ce sont les seuls vertébrés connus qui ont des os qui présentent donc des os rétractiles, des os purs et durs, quoi.
C'est incroyable.
C'est trop stylé, je trouve.
Mais les os, ils peuvent re-rentrer dans le corps ensuite ?
Tout à fait.
Okay. Ça fait vraiment Wolverine, en fait.
Ouais.
T'as raison.
Et c'est pas risqué, niveau... Enfin, en fait, je me dis, bah, du coup, au niveau bactériote, parce que les griffes sont prévues pour ça.
Visiblement, l'espèce survit, donc elles doivent avoir après un système immunitaire adapté, je pense.
Ça m'intrigue.
J'ai pas été jusque-là. On ira chercher plus loin. Et donc, nous commençons cette émission par un témoignage précieux et rare. Nous avons aujourd'hui au téléphone Madame Bénédicte, condylure étoilée de son espèce, mais surtout présidente du CDAND, le Comité de Défense des Animaux au Nez Difforme. Bonjour Madame Bénédicte.
Bonjour.
Madame Bénédicte, pour vous décrire brièvement aux auditeurs et auditrices qui ne vous voient pas, vous êtes donc une taupe et vous souhaitiez nous partager un coup de gueule, c'est bien ça ?
Oui, un bon coup de gueule, voilà. En effet, si certains d'entre nous s'en sortent bien, comme les ornithorynques, que vous, humains, semblez absolument adorer, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je tiens à profiter de votre audience pour vous sensibiliser à notre condition. Ce qui nous rassemble dans ce comité, ce sont nos nez en trompette, étoilés, disproportionnés. Ils sont bien différents des vôtres, mais ils cachent des super pouvoirs. Par exemple, nos amis d'Afrique du Sud, les oryctéropes du Cap, qui ressemblent à des petits fourmiliers à la peau ridée et aux grandes oreilles tendues. Ils présentent un nez en forme de groin allongé en mini-trompe. Leur nom, aardvark, signifie « cochon de terre ». Et en effet, grâce à leur nez surpuissant, ils détectent les termites, les fourmis, les fruits, qui est leur nourriture préférée. Leur museau contient beaucoup plus de capteurs olfactifs que vos chiens là et autres animaux de compagnie. Alors, sous leurs airs pataux, les oryctéropes sont quand même les seuls survivants de leur ordre, les tubulidentés. Prenez également le cas de mon espèce, les condylures étoilées. Notre nez en forme d'étoile ressemble à une petite main à 22 doigts. Comme on est quasiment aveugle, on l'utilise pour tout. Notre nez est 6 fois plus sensible que la main humaine. Grâce à lui, nous sommes les taupes les plus rapides de toutes les taupes. Aucune proie ne peut nous échapper, même dans l'eau, car on utilise la forme de notre nez pour créer des bulles d'air qui nous servent de réserve pour respirer sous l'eau. Et on a tellement d'autres capacités incroyables. Mais non, on résume tout à la forme de notre nez un peu marrant. Et vous avez même nommé certains d'entre nous explicitement par rapport à leur nez. Les échnidés à nez court, les kitis à nez de porc, alors qu'ils sont bien plus que ça. Tenez, les échnidés à nez court, par exemple. Ils sont tout aussi bizarres que les ornithorynques. Eux aussi, ce sont des mammifères qui pondent des œufs et dont le petit se développe dans leur poche. Ils ressemblent à une sorte de porc-épic et ils ont une langue toute collante de 20 cm pour manger des fourmis. Si ça, c'est pas chelou.
Oui, mais moi, vous m'avez appelé monstrueux.
Chut, Hector, on avait dit qu'on restait diplomate. Excusez mon ami, mais vous avez quand même nommé son espèce Ipsiniac monstrueux. Si ça, c'est pas de la discrimination, c'est pas sa faute s'il a un nez et une tête qui font penser à un cheval.
Oui, je comprends. Et je pense pouvoir dire au nom des membres du Labo des Savoirs que nous sommes de tout cœur avec vous. Que souhaiteriez-vous pour le futur ?
Bah, j'aimerais qu'on arrête de se moquer de nous et qu'on apprenne à mieux nous connaître. Et pas que pour notre nez soi-disant bizarre. En tout cas, je vous remercie de votre soutien et de nous avoir laissé la parole.
Mais c'est tout naturel. Merci à vous, Madame Bénédicte Lataupe, pour cette prise de conscience. Et nous ne manquerons pas de soutenir dans le futur le CDAND, le Comité de Défense des Animaux au Nez Difforme. C'était bien sûr notre Sophie Nationale qui interprétait Bénédicte. Et le prochain animal dont on va vous parler ne fait pas partie de ce comité car il n'a tout simplement pas de nez. Yeltas, tu nous emmènes dans les fonds marins ?
Eh oui, Mélissa. J'ai parfois cette impression que les humains trouvent fantastique tout ce qu'ils voient dans les océans. C'est peut-être parce qu'ils n'y habitent pas et qu'ils y vont peu, ce qui rend cet environnement plus mystérieux. C'est peut-être aussi parce que les organismes qui vivent dans les océans sont adaptés à d'autres paramètres physico-chimiques. Dans les fonds marins, la pression ou l'exposition à la lumière du soleil sont très différentes de nos conditions de vie à nous, ce qui module les corps vivants différemment en termes de forme et de couleur. En tout cas, les limaces de mer que je vais vous présenter ici ne dérogent pas à cette impression. Car dans l'eau, les limaces de mer sont tout ce que vous voulez qu'elles soient. Bleues, roses, jaunes, tachetées, transparentes, avec des cornes, des antennes, des ailes.
Mais c'est quoi en vrai une limace de mer ?
Techniquement, les limaces de mer sont un groupe très vague d'organismes. Vagues, car ils ne sont pas tous de la même famille au sens général du terme. Il s'agit généralement de mollusques, mais par abus de langage, on nomme parfois ainsi certains concombres de mer, pourtant plus proches des oursins, ou bien certains vers plats, voire même des coraux ou des poissons. Dans le cas des mollusques, on parle de nudibranches, des organismes que je vais vous présenter. Alors, ils vivent dans l'eau et ils possèdent un corps visqueux, un peu plus long que large, plutôt aplati ventralement, et qui leur sert à la fois à arpenter le fond des océans et à se déplacer dans la colonne d'eau, c'est-à-dire librement dans l'eau, horizontalement ou verticalement. Ce corps visqueux, que l'on nomme masse viscérale chez les mollusques, comporte une tête à l'une des deux extrémités, mais pas de carapace. Ainsi, leurs branchies ne sont pas protégées. Elles sont nues, d'où leur nom finalement de nudibranches.
Et donc, qu'est-ce qui rend les limaces de mer si magiques ?
Eh bien, de par ce manque de carapace que j'évoquais et de par leur taille, les limaces de mer sont très vulnérables aux prédateurs. Alors pour compenser, elles montrent des stratégies de défense très diversifiées. Pour commencer, ce n'est pas pour rien qu'elles arborent de nombreuses couleurs vives. Ces couleurs sont dites aposématiques. Elles sont un avertissement pour les prédateurs car elles sont généralement signes de toxicité. Mais certaines stratégies sont plus poussées. Par exemple, l'Hervia pelerine, Hervia H-E-R-V-I-V-I-A, est une limace de mer blanche présentant de nombreux gros filaments sur tout le corps, lui faisant un peu ressembler à un petit hérisson des mers. Ces filaments, d'une couleur dégradant entre le bleu, le violet et le rouge, se nomment des cérates et ils sont le cœur de la stratégie défensive de l'Hervia. En effet, l'Hervia se nourrit principalement d'hydraires, des animaux fixés au sol marin et urticants, mais contre lesquels elle est immunisée. Ainsi, elle stocke les cellules urticantes au bout de ses cérates et les projette ensuite sur ses prédateurs dès qu'elle se sent menacée.
Ainsi, elle pique des moyens de défense de ses proies ? Sacrée voleuse, celle-là !
Tu ne crois pas si bien dire, car cela ne s'arrête pas là. Cette Hervia fait également de la kleptoprédation, c'est-à-dire qu'elle leur vole aussi leur repas. En fait, l'hydraire n'a pas de valeur nutritive pour l'Hervia. Celle-ci a plutôt besoin de se nourrir de plancton, des organismes généralement très petits, si bien qu'ils sont obligés de se laisser porter par les courants marins. Seulement, les hydraires qui partagent le même repas sont bien meilleurs que l'Hervia pour capturer le plancton. Alors, notre limace de mer parvient à se débrouiller pour attaquer des hydraires qui viennent juste de manger, pour pouvoir récupérer le plancton tout juste avalé. Finalement, elle leur prend tout. La vie, leurs moyens de défense et leur nourriture.
Et de taille kleptomane, on en trouve d'autres chez les nudibranches ?
On en trouve d'autres. Et en plus, elles ne volent pas toutes la même chose. Ainsi, dans un autre style, on peut parler de l'Elysie émeraude. Elysie, E-L-Y-S-I-E. C'est une limace de mer qui se nourrit d'algues. Durant sa digestion, elle conserve et stocke les chloroplastes, des composants des cellules indispensables à la photosynthèse et qui n'existent que chez les plantes. Elle peut ensuite les réutiliser et par photosynthèse vivre jusqu'à 10 mois sans se nourrir, seulement grâce à la lumière du jour. Mais le plus génial concernant cette limace de mer, c'est que sa morphologie paraît s'être adaptée en conséquence. Elle ressemble à s'y méprendre à une feuille d'arbre, avec son corps vert, tout plat, sans cérate et ses vaisseaux saillants. La palme de la mignonnerie revient tout de même à la limace de mer Costasiella curoshimae. Cette espèce est capable de la même prouesse que l'Elysie. Elle vole les chloroplastes de ses proies pour faire de la photosynthèse. Par contre, elle ne ressemble pas du tout à la même chose. Elle possède de nombreux cérates allongés et colorés, verts, violacés, dans lesquels elle stocke les chloroplastes. Cette touffe de cérates, très caractéristique, lui a valu un petit nom bien choisi, le mouton des mers. Finalement, le seul regret de ces limaces kleptomanes, c'est de se faire voler leur gloire par des animaux marins plus grands qu'elles.
Merci beaucoup Yeltaz. On va s'éloigner des jolis petits moutons des mers de Yeltaz pour se réconcilier avec Nel et des petites bestioles bien moins habillées qu'on trouve dans les tréfonds de la terre.
Si vous êtes friand d'animaux bizarres, pas besoin d'aller très loin pour en observer. Il existe tout autour de nous des petites bêtes filiformes, marrons, visqueuses, sans queue ni tête. Je parle bien sûr des vers de terre. Ces animaux longs de quelques centimètres font partie de l'embranchement des annélides oligoquettes.
Des années quoi ?
Des annélides oligoquettes. Alors, annélides, déjà, cela signifie qu'ils ont un corps en plusieurs segments. D'où tous les petits anneaux que l'on voit le long de leur corps. Et oligoquette veut dire qu'ils possèdent quelques filaments pour se déplacer. Oli ? qui veut dire peu abondant, et quête pour les filaments de soie qu'ils produisent. Mais les vers de terre sont aussi plus communément appelés lombriciens. Alors, après cette petite introduction morphologique et étymologique, passons aux rôles qui ne sont pas des moindres de ces bébêtes pour la planète. Pour quelques minutes, devenons les meilleurs géodrillologues de l'année. Voilà déjà un nouveau mot pour se la péter, la géodrillologie et l'étude des vers de terre. Les vers de terre sont le groupe animal dont la biomasse est la plus importante dans un sol, environ 70%. Dans un sol fertile, ils ont une densité pouvant aller jusqu'à 500 individus par mètre carré, et leur nombre est si important qu'il y a environ 3 tonnes de vers de terre par hectare de sol. À l'échelle de la Terre, ces petits animaux très souvent invisibles dans les sols pèsent 20 fois plus que les humains.
Mais donc, que font nos amis lombriciens de si utiles ?
Eh bien, ce sont tout d'abord des ingénieurs en génie civil. Ils sont essentiels à la structuration des sols et à la vie des organismes qui s'y trouvent, comme de vrais constructeurs. Parce qu'en se déplaçant dans les sols, les vers de terre y creusent plein de galeries. Le sol est donc beaucoup plus aéré, et les galeries peuvent alors absorber jusqu'à 100 fois plus d'eau qu'un sol sans ces animaux. De quoi limiter les inondations et hydrater nos fidèles amis les plantes qui peuvent aussi développer leur système racinaire. Car, en plus de les hydrater, les vers de terre présents dans le sol alimentent les plantes. Ils sont donc également des restaurateurs du sol. Ils se nourrissent de la matière organique qui s'y trouve, comme des champignons et des bactéries, mais aussi de matière minérale. Et comme ce sont des animaux, tout ce qu'ils mangent va ressortir. Donc, en déféquant, ils dispersent partout dans le sol de la matière organique. C'est la bioturbation. Encore un nouveau mot pour se la péter. La matière organique est faite de sels minéraux comme l'azote, le phosphore, le potassium, le magnésium et le calcium. Tout plein d'éléments nécessaires aux plantes. Celles-ci peuvent donc, grâce aux vers de terre, mieux se nourrir et s'hydrater. Enfin, en étant d'assez petites bêtes, les vers de terre servent de nourriture à d'autres animaux, comme les oiseaux et les sangliers. Ils sont donc essentiels au maintien de la biodiversité animale, puisque sans eux, les oiseaux et les mammifères qui s'en nourrissent mourraient. Les impactant eux et nous, par la même occasion, si l'on est consommateur de viande ou de volaille. Leur présence est donc vitale pour que les écosystèmes puissent fonctionner. Et voilà, notre aventure de géodrillologue se termine. J'espère que cette présentation des vers de terre vous aura réconcilié avec eux et aura apaisé votre entelmophobie. Car franchement, vu ce qu'on vient d'apprendre ensemble sur leurs bienfaits, ils sont pas géniaux ces vers de terre ?
Mais carrément, on dirait pas comme ça, on sait pas où est la tête-tête, où est le cucu, mais ils sont la base de tout un écosystème dont on fait partie. Impressionnant. Merci beaucoup Nel, et c'était sa première chronique. On revient après cette première pause musicale pour continuer nos rencontres du troisième type.
Thank you. C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
C'était Cascade de Adam Pitz. Vous écoutez bien le Labo des Savoirs, nous sommes en plein milieu de notre bestiaire de curiosité. Et après avoir exploré fonds marins et tréfonds de la Terre, nous allons lever le voile sur l'intimité de notre bestiaire de l'étrange. Alors Floriane, comment on fait des bébés chelous ?
Eh, c'est le moment de bousculer ses certitudes concernant la reproduction animale. Avant de me lancer dans mes recherches, voici ce que j'imaginais.
Il était une fois un mâle et une femelle adultes. Ils s'accouplent et quelques temps plus tard, la femelle pond ou met bas. Des petits naissent, grandissent et parfois passent par quelques transformations. Enfin, ils deviennent adultes et rebelotent. Ce sera à leur tour de se reproduire.
Mais que nenni ! En quelques clics, c'est tout un pan de ma vision du monde qui s'est effondré. Alors oui, j'aurais pu vous parler de reproduction animale chelou, dégueu, rigolote, inattendue, voire carrément flippante. J'en ai trouvé des tonnes.
La punaise mâle, qui perfore littéralement la punaise femelle de partout pour la féconder.
Mais aussi...
des cas de cannibalisme post-coïto ou post-partum.
Ou encore des modes de naissance effrayantes.
Comme les petits crapauds, pipa-pipa, qui naissent en se frayant un chemin à travers la peau du dos de leur mère.
Vous l'aurez compris, ce n'est pas les anecdotes qui manquent dans le domaine de la reproduction bizarre. Seulement, j'ai décidé de présenter deux exemples qui ont déconstruit mes propres représentations clichés sur la reproduction animale. Première idée reçue.
Dans le règne animal, la fécondation et la gestation se passent dans ou en dehors du corps maternel, mais jamais chez le mâle.
Et c'est l'hippocampe qui va nous faire le plaisir d'envoyer cette représentation boulée. Pour le cheval de mer, c'est chez le mâle que se passe la fécondation et la gestation des œufs. C'est bien la femelle qui développe les œufs ou ovocytes dans son propre corps. Mais au moment de l'accouplement, elle les dépose grâce à un appendice appelé ovipositeur dans une poche incubatrice située à l'avant du ventre du mâle. Les ovocytes sont fécondés à l'intérieur de cette poche paternelle. Ils vont ensuite y poursuivre leur développement pendant quelques semaines jusqu'à ce que les petits éclosent. Les petits restent encore quelques jours dans la poche incubatrice, finissant de s'y développer. Puis, le père éjecte les minuscules hippocampes à force de multiples contractions. À ce stade d'information, vous vous demandez sûrement
« Pourquoi les hippocampes procèdent ainsi ?»
Eh bien, dans le cas des hippocampes, l'hypothèse la plus probable retenue à ce jour est que cette passation des œufs leur permettrait de répartir la fatigue et le risque lié à la reproduction. Cela demande déjà beaucoup d'énergie à la femelle de développer ses œufs. Elle passe le relais au mâle qui a toute l'énergie nécessaire pour supporter d'être moins mobile, donc limitée dans la satisfaction de ses besoins vitaux. Cette manière de faire permet par ailleurs de mieux protéger les œufs de la prédation. Si un prédateur approche, le mâle, qui est plus petit et plus terne que la femelle, se cache, et ses œufs avec lui. Pendant ce temps, la femelle peut développer de nouveaux ovocytes, ce qui lui permet d'aller féconder un autre mâle avant la fin de la gestation de sa précédente ponte, permettant à l'espèce de se reproduire plus. Second stéréotype ?
Seuls les individus physiquement adultes peuvent se reproduire.
Tout le monde connaît le cycle de vie en trois phases des amphibiens.
Des œufs sont pondus dans l'eau, des larves appelées têtards éclosent et grandissent, puis se transforment en amphibiens adultes qui sortent de l'eau pour poursuivre leur vie.
Eh bien, il existe un amphibien qui ne respecte pas ce cycle, l'axolote. Cette espèce est à l'origine endémique des lacs de montagne situés au Mexique. En grandissant, l'axolote développe certaines ébauches des caractéristiques adultes, notamment quatre pattes et des poumons, mais seulement partiellement développés. L'axolote ne passe pas les dernières étapes de transformation et reste au stade larvaire, conservant sa voilure caudale, ses palmes digitales et des branchies externes. Ce développement partiel de l'axolote lui permet de rester adapté et abrité dans son milieu aquatique, alors que le milieu extérieur montagnard est généralement trop froid pour sa survie.
Mais si l'axolote reste juvénile toute sa vie, comment fait-il pour se reproduire ?
Eh oui ! Spontanément, à ce stade de mes recherches, j'ai pensé...
Pas d'individu adulte.
Pas de gonade mature.
Pas de gonade mature.
Pas de gamète.
Pas de gamète.
Pas de reproduction.
Bref, extinction.
En fait, l'axolote n'est que partiellement resté au stade larvaire. Malgré son immaturité apparente, cette espèce de salamandre développe des caractères sexuels fonctionnels, ce qui lui permet de se reproduire.
La jouvence et la jouissance, quelle chance!
Cette capacité à se reproduire tout en gardant des caractéristiques immatures est appelée néoténie, et elle est plus courante qu'on ne le pense dans le règne animal. Outre cette néoténie, et si les conditions environnementales l'exigent, l'axolote peut déclencher la fin de son développement. Ainsi, il peut passer au stade adulte pour se déplacer par voie terrestre jusqu'à un nouvel environnement vivable. Les axolotes adultes perdent plusieurs années d'espérance de vie en ayant recours à ce processus d'urgence, mais cela ne les empêche pas de se reproduire. Troisième préjugé que je ne développerai pas.
Il faut forcément deux individus, un mâle et une femelle, pour se reproduire.
Eh oui, certaines espèces animales peuvent se reproduire de manière asexuée. Un seul individu peut se suffire à lui-même pour se reproduire. À l'issue de cette chronique, je comprends la difficulté du Robert pour définir la reproduction.
Fonction par laquelle les êtres vivants se reproduisent. Action de se reproduire.
Le Larousse fait un peu mieux que ce fourre-tout.
La reproduction est la propriété caractéristique des structures vivantes qui consiste à édifier des structures vivantes identiques ou presque identiques à elles-mêmes.
Je n'avais jamais fait attention avant à ce que cette définition incluait et surtout à ce qu'elle n'incluait pas. Il y a des tonnes de processus différents amenant à la reproduction des espèces animales. Et finalement, ce qui m'a semblé bizarre jusqu'à maintenant parle surtout de mon ignorance et de mon jugement, et pas d'une propriété intrinsèquement bizarre chez ces espèces. Tous ces modes de reproduction moins connus représentent, ou ont représenté à un moment donné, un avantage favorable à la survie de l'espèce concernée. Une fois vu sous cet angle, ces bizarreries ne semblent plus en être.
Merci beaucoup, Floriane. Les limaces de mer, les condylures étoilées, les hippocampes. Ce bestiaire nous permet de découvrir les capacités étonnantes de certains organismes. Mais ce serait dommage de s'arrêter là. Parfois, ce sont leurs intentions qui sont déroutantes. Un exemple, Jérémy ?
Alors, je peux vous partager l'histoire de Thomas Strait, facétieux designer anglais. Alors, nous avions déjà pu suivre l'an passé son impossible projet, construire un grille-pain de zéro. Dans son second livre, il nous indique être fatigué des tracas de la vie d'humain et il se met alors en quête d'un mode de vie plus simple, plus tranquille. Après quelques péripéties, le déclic arrive, il prendra ses vacances de l'humanité en devenant une chèvre. Il raconte son périple dans Goatman, publié aux éditions Princeton Architectural Press. Et donc ce livre relate notamment les échanges qu'il a pu avoir avec de multiples scientifiques pour préparer sa transformation, tout comme les doutes qui le hantent jusqu'à son immersion dans un troupeau. J'ai composé un petit slam pour rendre hommage à ce travail qui touche tant à son intériorité d'humain qu'à nos angoisses d'animaux chelous. Alors j'ai essayé de me mettre à sa place, imaginons les questionnements qu'il a traversés. Vous reconnaîtrez probablement l'air et je l'espère le rythme, je les ai volés à Grand Corps Malade et à Bruno Dias, artiste référence du genre. Parce que je voulais fuir les tumultes de la vie d'humain, que je savais bien qu'un simple break ne suffirait pas, que j'ai envie d'aller au bout quand une question me hante, parce que j'ai un grain, devinez quoi, je rêvais de devenir une chèvre, parce que c'est un sacré changement de rejoindre un troupeau, je contacte Alan McEligot, éthologue spécialiste en biquette, je comprends ce qui rythme le quotidien des proies, la peur permanente des attaques, même au moment de manger, le qui-vive constant, en rien reposant. Garderai-je des inquiétudes ? L'éthologue parle de préoccupations liées à l'évolution. Monsieur Darwin, que nous sépare-t-il du monde vivant ? Est-ce la façon dont notre cerveau a pu se spécialiser ? Difficile à dire pour le neuroscientifique Joe Devlin. Le langage nous donne à penser, me sort de l'immédiateté. Pour ressentir son absence, je me propose comme cobaye. Endormi ma zone de Broca, je rêvais de devenir une chèvre. Relions les muscles et le mental. Bye bye, René Descartes. Le corps d'un organisme porte sa façon d'être au monde. C'est l'essence du propos du prof John Hutchinson, examinant la locomotion chez les vertébrés. Je file alors voir des prothésistes avec mon projet d'exosquelette. Le secret pour devenir quadrupède, allonger mes bras pour tenir mon poids et défier mes articulations, peu habitué à hisser mon corps. La dissection d'une amie trépassée m'aide à comprendre les derniers détails. Je m'imagine sur mes quatre pattes, encore un détail à régler. Que vais-je pouvoir digérer ? Mon estomac peut-il tolérer une journée passée à brouter ? Arrive Alison Kingston-Smith, experte digestion des ruminants. Ses réacteurs artificiels fonctionnent sans souci grâce à des sucs prélevés de l'estomac d'une camarade. Le déclic me vient alors. Une poche reliée à mes intestins avec ses sucres où je pourrais cracher la récolte de la journée. Idée risquée. Mes boyaux pourraient être colonisés. Tant pis, un réchaud des enzymes artificielles transformeront la cellulose en sucre. Bien préparé, bien équipé, je rêvais de devenir une chèvre. Imaginez les Alpes suisses d'été, la verdure, la fraîcheur. Goatman a retrouvé les siennes. Elle m'accueille non sans étonnement. Le berger me confia alors qu'il sentit son troupeau m'accepter, puis m'offrit une cloche, signe d'appartenance à la famille. Je crois bien que j'ai été une chèvre.
Mais je ne te connaissais pas ce talent, Jérémy.
Je l'ai travaillé juste pour toi, Mélissa, et ton sujet est fabuleux.
Waouh, je suis flattée. Par contre, je me suis posé une question pendant ton slam. À un moment, tu parles d'endormir son air de Broca. Qu'est-ce que ça fait exactement?
Alors, selon Joe Devlin, le neuroscientifique qui étudie ce sujet, la zone de Broca, c'est une zone qui est à l'origine de la production du langage dans notre cerveau. Et donc, une des hypothèses qui a émergé dans l'esprit de Thomas Strait, c'est que si jamais il endormait cette zone, il perdrait l'usage du langage, et donc il essaierait de se rapprocher de l'état de chèvre, à savoir un organisme qui a quand même une capacité d'apprentissage, mais qui a du mal à distinguer le passé, le présent et le futur. Et donc, il a subi une expérience où, en gros, on lui a mis des électrodes pour essayer d'endormir la zone. Et bon, j'ai pas l'impression que c'était très concluant, mais il a quand même essayé de tester le truc, quoi.
Super. En tout cas, merci beaucoup, Jérémy, pour ce magnifique hommage à l'homme chèvre, le goat des goats. Est-ce que vous seriez prêt pour une deuxième question? Attention, sortez les buzzers!
Oui, oui, oui!
On est prêt. Question numéro 2. Quel est le point commun entre l'ifrita de Kowalt, qui est une sorte de petit passereau, les grenouilles du genre Philobate et le Corésine, une sorte de scarabée? Question ouverte, allez-y.
Ils ont tous des noms imprononçables.
Autre que ça.
Il doit y avoir une relation de commensalisme ou de symbiose un peu tordue, je pense.
Mm-hmm, intéressant, ok. Donc on a ici l'hypothèse de symbiose, c'est ça? Donc ils arriveraient à vivre ensemble.
À un moment de leur cycle, ils ont tous besoin des autres.
Ok, donc un passereau, des grenouilles, un scarabée. Il a?
Alors là, je ne sais pas du tout. C'est vraiment, je suis la non-scientifique de cette équipe. Alors,
ceci n'a rien à voir avec être scientifique ou pas, c'est juste être curieux.
Ils sont tous cousins. C'est ça la réponse que je vais donner.
On est tous cousins quelque part, hein, n'est-ce pas? Et donc, en fait, non, ils produisent tous les trois une toxine. La batrachotoxine, qui les rend très vénéneux. Donc, on évite clairement de les toucher, car cette toxine attaque le cœur et le système nerveux central.
Aïe.
Ah ouais.
Certaines populations joyeux. D'Amérique du Sud, ouais, comme tu dis, très joyeux. Donc, certaines populations d'Amérique du Sud l'utilisent sur la pointe de leur flèche pour chasser. Et ce qui fait de l'ifrita de Kowalt, donc l'un des seuls oiseaux connus pour être vénéneux à son contact. Nolwenn, t'as envie.
C'est
de...
pas la grenouille dans Rio 2? La grenouille rose et noire.
Ouais, ouais, si je vois de quelle grenouille tu parles. Ouais, ouais.
Ouais.
Je crois que c'est la même
grenouille.
Pour ceux qui ont
voir Rio 2.
Rio 2, voilà. Je crois que c'est la même grenouille.
Ok, eh ben, j'irai voir tout de suite après l'émission parce que tu m'intrigues. Et du coup, donc, l'ifrita de Kowalt est l'un des seuls oiseaux connus pour être vénéneux à son contact et les quatre autres oiseaux connus pour être vénéneux sont du genre Pitohui. Et donc, on continue l'exploration après avoir parcouru Forest Zone de Memotum.
Thank you.
Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
C'était Forest Zone de Mémoton. Vous êtes toujours sur le Labo des Savoirs et ce soir, c'est bestial. Il y a des animaux chelous qu'on trouve mignons ou qu'on trouve moches. Mais toi, Lila, tu vas nous parler d'un animal chelou qui te fait peur ?
Eh oui, alors quand on parle d'animaux chelous, il y a tout un tas de choses que tu peux t'imaginer. Même pour une non-scientifique comme moi, j'aurais pu parler d'un animal mignon comme la fourmi panda ou le papillon caniche du Venezuela. J'aurais aussi pu parler d'un animal drôle comme le serpent pénis ou le poisson chauve-souris. À la place, j'ai choisi de parler d'un de mes traumatismes d'enfance, un animal qui, comme beaucoup d'animaux marins, semble avoir été désigné par Satan en personne, le narval. Alors, le narval, ou de son petit nom la licorne des mers, est une espèce de cétacé de la famille des monodontidae, vivant dans l'océan Arctique. Pas de chance de tomber dessus pendant une baignade à Pornic, donc. Il appartient au sous-ordre des cétacés odontocètes, donc qui veut dire baleine à dents, comme les cachalots et les dauphins. Le narval a des caractéristiques physiques très reconnaissables. Il dispose d'une petite tête arrondie, dotée d'une bouche ronde. Il a des nageoires retroussées vers le haut et un corps trapu. 1600 kg en moyenne pour une taille de presque 7 mètres de longueur pour les mâles, tandis que les femelles plus petites font en moyenne 1000 kg pour 4 mètres de longueur. Petit mais extrêmement costaud, comme Astérix, son corps est également recouvert d'une couche de graisse de 10 cm, lui permettant de résister aux très basses températures de l'océan Arctique. Tout comme les autres membres de la famille des monodontidae, décidément c'est compliqué à dire, il ne dispose pas de nageoire dorsale. Cette absence de nageoire lui permet de se déplacer sous la glace extrêmement facilement.
Alors jusqu'ici, ça m'a l'air d'être un cétacé assez commun. Qu'est-ce qu'il aurait de si bizarre ?
Eh bien, la particularité la plus frappante du narval, celle qu'on ne peut pas louper, hein, que vous connaissez sûrement, mais moi c'est celle qui me donne des cauchemars, c'est sa défense. Une défense qui lui a causé bien des problèmes au cours de son histoire, les cornes de narval étant physiquement identiques aux légendaires cornes de licorne avec leur forme pointue et torsadée, ces dernières ont été pas mal convoitées par les arnaqueurs au cours de l'histoire. En effet, les narvals ont été chassés pendant le Moyen-Âge pour leurs cornes, que l'on vendait sur les marchés en tant que cornes de licorne censées posséder des pouvoirs magiques, pouvant guérir les maladies.
Mais il a l'air quand même trop mignon ton narval, qu'est-ce qui t'effraie tant chez ce noble animal ?
Eh ben, je vais vous le dire. Déjà, première chose, le narval vient du vieux norrois nar, qui veut dire cadavre, et rval, qui veut dire baleine, donc littéralement cadavre de baleine, car les narvals adorent faire le mort en flottant à la surface de l'eau pour zéro raison. Deuxième chose, vous voyez sa défense ? Sa magnifique et noble défense qui lui a valu le surnom de licorne des mers. Vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est une dent.
Une dent ? Sérieusement ?
Oui, l'incisive supérieure gauche pour être exact. Alors cette information, en plus de m'horrifier, a complètement changé ma perception du narval. Mais apprendre à quoi sert cette dent, c'est encore plus bizarre. Déjà, seuls les mâles et 15% des femelles ont une corne. Tout d'abord, on sait que les dents de narval peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Elles peuvent se courber sans se briser. Car oui, cette dent en apparence solide est en fait flexible et assez fragile. Il faut dire que contrairement à nous, l'émail se trouve à l'intérieur de leurs dents et la pulpe à l'extérieur. Les narvals mâles sont même capables de réaliser des plombages, soit avec du gravier, soit en provoquant un autre mâle en duel pour que ce dernier mette l'extrémité de sa corne dans le trou de sa dent, puis la briser, formant ainsi un bouchon. Une technique que je conseille à tous nos auditeurs et auditrices de retenir. Liez l'utile à l'agréable en pétant la mâchoire de votre voisin qui vous réveille tous les dimanches matin avec son aspirateur de merde, tout en économisant un rendez-vous chez le dentiste.
Ah ouais, faut bien viser quand même. Hein. Mais sinon, elle doit bien leur servir à quelque chose, cette immense dent.
Alors la fonction de la dent du narval, elle est discutée depuis 500 ans. Mais aucun expert n'est sûr de son utilité. Plusieurs hypothèses ont été soulevées à ce jour, comme quoi il s'agirait d'une sonde acoustique, d'un régulateur thermique, d'un harpon pour attraper les proies, d'une arme contre les mâles un peu trop chafouins ou les prédateurs, ou encore un outil pour briser la glace. Chacun y va de sa petite théorie. Personnellement, mon hypothèse préférée, c'est celle où l'on pense que la dent du narval servirait à signaler la taille des testicules aux femelles. Imaginer ces animaux jouer à qui a la plus grosse est extrêmement drôle et me permet d'oublier à quel point ils me font peur. Finalement, il semblerait que l'hypothèse qui soit la plus probable, c'est que cette dent soit en réalité un organe sensoriel utilisé pour 1. Détecter les petits animaux dont ce carnivore se nourrit, 2. Repérer les femelles grâce aux hormones qu'elles laissent dans l'eau et 3. Se repérer lors de sa migration. Au fond, j'ai appris beaucoup de choses sur cet animal. Pendant longtemps, le narval n'était qu'une horrible créature mangeuse de pingouins que j'ai vue dans un dessin animé obscur quand j'étais petite. Maintenant, je sais qu'il est bien plus que ça. Et j'ai toujours aussi peur, et je vais toujours éviter cet animal comme la peste. Mais au moins, je dormirai moins bête. Et puis, ça fait une chronique sympa.
Bon, j'espère que tu n'as pas fait trop de cauchemars en préparant cette chronique. Merci beaucoup, Lila, d'avoir affronté ta peur pour nous.
De rien.
Depuis le début de cette émission, on parle de plein de bébêtes en tout genre, toutes plus farfelues les unes que les autres. Tellement farfelues que pour certaines, on pourrait croire qu'elles sortent tout droit d'univers imaginaire. N'est-ce pas, Nolwenn ?
C'est vrai. Des animaux bizarres, les folklores autour du monde en regorgent. Les auteurs, autrices et illustrateurs, illustratrices en conçoivent en continu pour alimenter leur paracosmos, leur univers. Et il y a quelque chose d'agréable à faire réfléchir notre cerveau sur la possibilité de telle ou telle bestiole. Dragons, ghouls, vampires, monstres marins, narvals, ça nous permet de rêver, de sortir de notre réalité à laquelle on est bien habitué.
Ah oui, tant que ça ?
Eh oui, et pour un moment, fermons nos livres, lâchons nos films et restons ici sur notre planète Terre, car elle aussi a son lot d'animaux étranges à nous retourner le cerveau. Parmi les nombreuses espèces farfelues qui peuplent notre planète, il y en a qui semblent sortir tout droit de l'univers Ghibli. Je pense notamment au cerf huppé, un petit cervidé originaire de Chine. Il appartient au genre Elaphodus, un genre bien à part des autres espèces, chez qui les mâles portent des bois tout petits et cachés sous leur poil, cachés sous leur huppe. Peu habituel, certes, mais leur spécificité vient de leur canine prominente d'environ 8 à 10 cm de longueur qui dépasse de leur babine.
Mais à quoi peuvent-elles servir ces canines chez un cerf ?
Bonne question. C'est un animal herbivore, occasionnellement omnivore lorsqu'il trouve des larves ou des œufs, ce qui est assez rare chez les cervidés au passage. Considérant son alimentation, avoir des canines aussi longues ne revêt donc d'aucune utilité. Alors, si ce n'est pas pour l'alimentation, il reste une grande fonction pour laquelle ces crocs apparents peuvent servir. La reproduction. Il s'avère que les canines de l'Elaphodus de Chine font office de défense lors des affrontements entre mâles et elles peuvent tomber pendant les combats. Les mâles s'en servent aussi pour intimider un adversaire en retroussant les babines. Oui, oui, comme un chien.
Et tu as d'autres animaux étranges à nous décrire ?
J'ai un autre mammifère dont je peux vous parler qui a une étrangeté qui m'a interpellée. Il s'agit de l'antilope saïga, une antilope eurasiatique qui vit dans les grandes steppes sèches et déserts semi-arides. Sa singularité à elle, c'est d'avoir une trompe. Et là, il n'y a pas de lien avec la reproduction puisqu'il s'agirait d'une adaptation à son environnement et plus précisément au climat des steppes dans lesquelles l'antilope vit. Ce museau est effectivement adapté au climat sec avec des étés très chauds et des hivers très froids. Lors de fortes températures, la circulation du sang dans cette trompe va le refroidir et éviter que sa température trop élevée ne vienne altérer les tissus cérébraux. Quittons désormais les steppes eurasiatiques pour voyager jusqu'en Afrique pour parler d'un petit monstre, d'un oiseau que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous le décrire et peut-être certaines et certains verront duquel je parle. Il s'agit d'une très grande espèce qui fait partie du groupe des hérons, aigrettes, cigognes et pélicans. Femelles comme mâles ont un plumage gris assez simple. Les individus atteignent les 1m20 de hauteur, parfois 1m40, et ont une envergure de 2m30. Cet oiseau est le Balaeniceps rex, plus connu sous le nom de bec en sabot du Nil.
Mais qu'est-ce qu'il a comme particularité ce piaf à part sa taille extravagante ?
J'y viens. En fait, il faut vous visualiser un héron géant avec un bec de la taille d'une chaussure pointure 63. Plus sérieusement, le bec en sabot du Nil porte un nom assez explicite puisqu'il a un bec très massif d'environ 25 cm de long, de la taille d'un gros sabot de bois. Avec un bec pareil, cet oiseau a une apparence presque préhistorique. Il peut le faire claquer et ainsi communiquer avec ses congénères en émettant un bruit semblable à une mitrailleuse. C'est assez impressionnant à entendre. Mais surtout, cet échassier est piscivore et la taille de son bec lui permet de pêcher des poissons de grande taille, parfois aussi des serpents. Toutefois, je vous mets en garde. Bien que cet oiseau soit de nature placide envers l'humain, je vous déconseille de venir l'embêter puisque son bec est tellement aiguisé qu'il peut décapiter ses proies d'un seul claquement. Gare à vos mains donc.
Promis, on fera attention à nos mains, à défaut de faire attention à ces espèces, j'imagine.
En effet, pour finir cette chronique, je souhaitais aborder le statut de conservation de ces trois espèces un peu extravagantes. Car aussi surprenantes soient-elles, leurs populations sont très fragiles et doivent faire face à de nombreuses menaces. À cause du changement climatique, l'antilope saïga voit son habitat naturel altéré, voire détruit, la plaçant ainsi en danger critique d'extinction. Pour des raisons similaires, le bec en sabot du Nil est quant à lui classé vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et au final, c'est le CREP qui s'en sort le mieux, car il n'est que quasi menacé. Je vous laisse donc reprendre vos livres, vous remettre devant vos films et séries, et pourquoi pas, de temps en temps, regarder un documentaire animalier pour en apprendre plus sur les créatures surprenantes et étranges qui peuplent notre Terre.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, les documentaires animaliers, c'est la vie. Merci Nolwenn pour cette dernière chronique de l'émission. Car oui, notre émission touche déjà à sa fin. Mais pas sans une dernière petite question. Alors, le saviez-vous, les poissons aussi ont des poux. Mais où se logent-ils ?
Dans les branchies.
Sous la langue.
Sous la langue ?
Ah, il y en a une qui sait, en fait.
J'adore les parasites.
Effectivement, c'est sur la langue, ou plus précisément, en remplaçant leur langue. Car oui, le pou de langue est un petit crustacé d'environ 3 cm qui vit en tant que parasite. Au stade larvaire, il passe par les branchies, t'étais pas loin Lila. Donc il passe par les branchies des poissons et il s'accroche fermement à la base de la langue du poisson hôte. Il va alors pomper le sang de la langue à l'aide de ses petites griffes jusqu'à ce que la langue soit complètement atrophiée. Pendant ce temps, le pou se développe et prend la place tranquillement de la langue. Et les deux, le pou et le poisson, vont vivre en totale symbiose car le poisson vit normalement en utilisant le pou comme si c'était sa propre langue.
C'est immonde.
Miam.
Et donc, j'ai appris énormément et découvert énormément de choses grâce à vous ce soir et ça me donne envie d'en savoir plus sur vraiment tous ces animaux. Petit tour de table, si vous deviez en retenir un de tous ceux qu'on a évoqués ce soir, lequel vous choisisseriez ?
J'ai beaucoup aimé la taupe qui sait aller dans l'eau pour chasser. Je n'aurais jamais imaginé une taupe capable de nager.
Ouais, la petite candidure étoilée.
Moi aussi, j'aime bien.
Ouais,
j'ai vu des photos de cette taupe et je la trouve très mignonne.
Ouais, la petite taupe. Vous voyez, les nez bizarres au final.
Moi, j'ai un attachement particulier pour la chèvre qui slame. Je pense que c'est la plus bizarre et la plus admirable comme espèce bizarre.
Merci. Bah écoute, moi j'ai trouvé très impressionnant l'histoire sur le narval. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit une dent et qu'en plus il se fasse des plombages combatifs.
Ah ouais, donc, non, c'est hyper drôle, je trouve.
Ouais, moi aussi, le côté de la dent, quand j'ai appris que c'était une dent, j'ai fait oui, bon, oui. Sérieusement.
Surtout, c'est genre, ils ont plusieurs dents, mais c'est la seule dent
qui traverse
leur truc.
Voilà, très 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 chelou.
Oui.
Et c'est la fin de notre bestiaire. Merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses. Merci à Sophie, Yeltaz, Nel, Floriane, Lila, Jérémy et Nolwenn. C'était une émission préparée par Mélissa Touvron et réalisée par Dounia Saez. Vous pouvez la retrouver dès demain sur vos applications de podcast. Et si vous avez kiffé cette émission et que vous voulez vous aussi faire partie de cette joyeuse bande, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site labodessavoir.fr ou nos réseaux sociaux. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
greatest. I know she'd be the greatest if only she was open to see me. It's alright though, cause I got time. Time isn't my essence and time isn't the line. It's alright though, she'll give me a buzz. I'll call her my baby and she'll call me her cuz. Well, I think I'm in love cuz.
Lately, I'll call you when I do nothing. Lately, I'll call you when I do nothing. That is love. Yeah, that is love when it's hard to do. It's a job for two.
Radio G 101.5 FM.
Savourez nos différences.